Podcast, épisode 249. Édition Tu perds tes amis. Enregistré le 12 février 2021.
Bienvenue au Cascodeur, épisode 249. Nous sommes le 12 février 2021 et je suis accompagné d'Antonio et j'allais dire Agoncal, dis donc.
Agoncalé.
Agoncalé. Bref, ça veut dire quand on est à distance, c'est ça?
Ouais, voilà, on est à distance quand même. Hein. Ouais. Accompagné.
D'ailleurs, écoute, dans le Slack qu'on utilise, Antonio, ton nom, ça doit être Agoncal. Du coup, quand tu tapes en... Eh ben, ça ramène personne. Pourtant, il y a 6 personnes dans le machin.
Bah ouais, mais écoute, c'est comme ça. Je suis Agoncal, point.
Mm-hmm. Non, mais tu aurais pu mettre ton nom, ton prénom, parce qu'ils
font de la Agoncal, ça date de la fac, vraiment. Hein. J'ai ça depuis plus de 30 ans, où tu mettais la première lettre du prénom et les 6 lettres du nom. Donc, ouais. J'ai mon premier mail qui date de 91 ou 92. C'était Agoncal, je ne sais plus trop quoi.
0037.
Non.
Et c'est vrai qu'il y en a encore, hein, parce que nous, à Red Hat, le nom canonique, c'est pareil, il est limité, alors c'est pas 6, mais c'est un peu plus. Mais il y a plein de gens qui ont, du coup, un truc un peu tronqué, quoi, dans le nom de famille. Et après, bon, tu peux mettre des alias. À l'époque, c'était trop cher de mettre des alias, donc, mais bon. Bon, bref, ça y est, on a perdu encore une minute et demie. Alors, on va se lancer, on va commencer avec les langages et un article qui raconte une optimisation de MD5 dans la JVM. D'abord, il dit bon, ok, MD5, c'est craqué, etc. Mais c'est quand même utilisé pas mal, notamment pour vérifier l'intégrité, un petit peu comme un checksum, en fait. Et notamment, je crois que dans le UUID, c'est utilisé, en fait. Donc, c'est quand même un algorithme qui reste pas mal utilisé. Et puis, ils ont reçu une pull request, donc des gens de OpenJDK, j'imagine, qui ont reçu une pull request en disant, voilà, j'ai une optimisation qui utilise thread local parce qu'il y avait un problème de, je sais plus si c'était contention, etc. Mais en termes de vitesse, c'était un peu mieux d'utiliser un thread local pour garder une instance de message digest. Voilà. Et du coup, l'algorithme explique un peu pourquoi ils vont probablement pas accepter cette pull request. Parce que thread local, ils l'enlèvent un peu dans leur implémentation. Déjà parce que du coup, il n'y a pas de nettoyage. Donc après, à chaque thread local, va avoir un message digest qui va traîner. Donc ça consomme de...
C'est pas très digeste, quoi.
Voilà. Et puis aussi avec Loom et les virtual thread local, c'est pas très l'optimisation avec en collant une variable en thread local, ça devient un petit peu potentiellement un anti-pattern. Voilà, donc bref. Donc ils se sont dit bon, on va quand même essayer d'optimiser. Et donc l'article, enfin ce que j'aime bien, c'est pas tant l'optimisation qu'ils ont fait, mais comment l'article explique comment ils ont
analysé.
Ils essayent de voir, donc ils voient là, effectivement la surcharge due à la contention. Ensuite, ils explorent des alternatives et notamment MD5 depuis pas si longtemps que ça et ce qu'on a des optimisations dites intrinsèques où en fait au lieu de, en gros l'idée c'est quand tu vois tel pattern de code en Java ou tel appel de méthode, fais pas ton interprétation Java, tu vas directement exécuter ce code natif dans tel processeur et ça va être plus rapide. Et donc, il explique justement comment ces calls intrinsèques ont tendance à les ralentir en termes d'optimisation. Il dit « Ah, je pourrais optimiser en enlevant telle variable, mais ça va péter l'intrinsèque, alors ça m'embête. » Voilà. Et donc, c'est marrant de voir le coût qu'ont les intrinsèques. Donc, c'est des gains de perf, mais du coup, c'est des coûts en termes de maintenance et du coup de volonté de mettre à jour le code, en fait. C'est assez rigolo.
Du coup, ils vont passer au intrin mouillé.
Pas mal.
Il est chaud.
Ce n'est que le début.
Comment... Il s'est roulé dans la neige, là, il a la patate.
Il y en a encore dans le jardin, c'est cool.
Moi aussi, ouais. Sinon, du coup, on va parler de Hexadécimal, qui a maintenant une implémentation, qui va avoir une implémentation native Java 17, voilà. Et du coup, les conversions de Hexadécimal vers du décimal. ils appellent ça digit, mais non, ils appellent pas ça digit, je dis une bêtise. Enfin bref, des conversions. Voilà, pour la petite blague, c'est que du coup, moi, que j'avais fait, c'est que les gens qui ont un peu honte de leur âge vont pouvoir appliquer nativement la conversion en hexadécimal et se croire encore plus jeune.
Et la formater, donc c'est très très beau, l'API est très très belle, on peut avoir des 000A, des 000B, etc.
Ouais. Et B.
Pas sûr que j'utilise ça très très souvent, mais
et ouais, c'est belle.
Ah bah j'ai eu un cas récemment là pour un bout de code.
Ouais,
Donc ça peut arriver. Non, j'avais du genre des valeurs RGB. Je voulais l'hexadécimal pour faire une variable CSS, tout ça. Et,
d'accord.
Et ça aurait été pratique.
Mais en Java ou en...
Ouais, en Java. Et en fait, quand je l'ai fait... après, j'avais fait du Node.js. J'ai fait un truc vite fait en Node.js. Mais...
D'accord. Sinon, tu copies-colles de Stack Overflow, il y a sûrement...
Oui. Non, mais ce qui est marrant, après, c'est de voir toutes les... Enfin, du coup, j'ai regardé ce que c'était un projet où il y avait plusieurs langages, où plusieurs trucs étaient implémentés dans plusieurs langages. Et je regardais, les API sont assez variées, en fait, dans les différents langages de programmation, alors que tu te dis, mais c'est juste de convertir des hexadécimaux et des entiers, mais tu as plein de manières de faire, c'est marrant.
Ouais, ouais. Voilà, sinon, Java 16 arrive incessamment sous peu, je ne me rappelle plus, mais c'est vraiment bientôt, là.
Mars, non,
Voilà.
Oui, je ne sais plus la date, mais il me semblait que c'était mars, je sais pas.
Bientôt, quoi, 15 jours, hein. Ouais. 15 jours et un mois et demi, en fonction de quand est-ce que ça arrive. Et donc Java 16 arrive et José du coup nous a fait un crotcast qui nous explique un petit peu. Ouais, merci José, de certaines des API. Et d'ailleurs donc j'ai proposé à José qu'on fasse carrément une interview entière sur un peu ce qui va venir ou ce qui est arrivé assez récemment en tout cas dans l'univers du développeur qui est encore sur Java 8.
Ah ouais, super idée.
Et voilà, donc on va se prendre une heure pour discuter avec l'un de ces quatre.
Salut les casse-codeurs, salut à tous, c'est José au bout du fil pour vous parler de quelques nouveautés choisies parmi le catalogue de ce qui va sortir ou de ce qui est peut-être déjà sorti en Java 16. Au moment où j'enregistre, Java 16 n'est pas encore tout à fait sorti, mais on sait déjà ce qu'on va voir dedans. Et il y a vraiment des choses extrêmement sympathiques qui vont nous permettre de progresser dans l'implémentation du pattern matching en Java. Dans le cadre du projet Amber, on a encore quelques pas supplémentaires qui sont faits. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Les deux premières fonctionnalités supplémentaires qu'on a, et qu'on a de façon définitive, parce qu'elles sortent du mode preview, c'est d'une part le pattern matching for instance of, qui est donc ce truc qui était en preview jusqu'en 15, et puis cette nouvelle façon de créer des bins, des espèces de bins, qui sont aussi record. Alors le pattern matching for instance of, ça va nous permettre d'écrire des choses du genre if o instance of string, et puis de rajouter un s, et ce s en fait ça va être une variable de type string qui va être créée automatiquement par le compilateur et qui sera disponible partout où elle peut être disponible. Elle sera pas disponible uniquement dans la branche qui va bien du if, mais elle sera également disponible dans certaines parties d'une expression booléenne dans laquelle on aurait ce instance of. Donc c'est quelque chose d'en fait assez sophistiqué et d'extrêmement intéressant qui est une étape de plus pour l'implémentation du pattern matching final qu'on aura une fois que Amber sera entièrement livré dans le JDK. La deuxième chose, c'est donc ce concept de record. Un record, c'est un élément immutable que l'on peut créer donc dans une application. Ça se déclare exactement comme une classe normale, public record, avec un nom de record, donc par exemple point. Et puis après la déclaration du nom de cette classe qui est un record, on déclare, entre parenthèses, la liste de ce qui s'appelle les composants de ce record. Alors, ces composants, c'est un petit peu comme des champs, et cette déclaration ressemble en fait à la déclaration d'un constructeur, sauf que c'est au niveau de la déclaration de la classe. Alors ça, c'est un peu inhabituel, c'est même nouveau, en Java, bien sûr. Et le compilateur va nous générer tout un tas de codes suite à cette déclaration. En fait, en faisant juste cette déclaration, on a déjà créé un record complet, et le compilateur va, dans cette classe, créer les deux champs qui correspondent aux deux composants qu'on a déclarés. Donc dans le cas du point, ça pourrait être int x et int y. Il va également créer le constructeur, les getters, alors qui ne sont pas des vrais getters, au sens où ce ne sera pas get x et get y, mais juste x et y. Et puis une méthode toString, une méthode equals et une méthode hashcode. L'implémentation de ces trois méthodes va en fait utiliser Invoke Dynamics, ce qui veut dire que c'est la JVM qui va fournir l'implémentation de ces méthodes à l'exécution. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que au fur et à mesure que la JVM va évoluer, l'implémentation notamment de Hashcode va aussi pouvoir être évoluée et bien sûr éventuellement être optimisée sans avoir besoin de recompiler ce record. Ça, c'est vraiment un des trucs super qu'il y a avec Invoke Dynamics. Donc ça, les records et le pattern matching pour instance of, c'est des nouveautés de Java. C'est intégré dans le langage et intégré pour toujours, puisque quand on ajoute quelque chose dans Java, évidemment, on ne le retire jamais. Surtout que là, ça touche au langage en lui-même, c'est pas juste des API. Il va y avoir des nouvelles API également derrière. Pour les records, il y a des modifications de l'API réflexion notamment. Mais là, ça touche vraiment au langage, et donc là, le langage, évidemment, quelque chose qui rentre dedans, bah, ça reste. Ça n'est jamais retiré pour des raisons de compatibilité ascendante. Et puis alors, on va avoir un autre élément du pattern matching qui est disponible en seconde preview dans ce Java 16, qui sont les sealed classes. Alors, les sealed classes, ce sont ces classes dont on peut fixer à la compilation les classes qui sont autorisées à les étendre. En fait, ça marche pour tous les types, donc que ce soit des classes abstraites ou des interfaces, on peut faire ça. On peut par exemple déclarer une interface et avec une syntaxe particulière dire que cette interface ne peut être implémentée que par tel et tel type précisé à la compilation. Et ça, c'est le compilateur qui va vérifier ça d'une part, mais aussi la machine virtuelle, c'est-à-dire qu'il ne sera pas question à l'exécution d'utiliser de la réflexion ou un agent ou de la manipulation de bytecode pour créer à l'exécution de l'application une implémentation supplémentaire de cette interface. C'est quelque chose qui sera vraiment vérifié par la JVM à l'exécution. Ça, ce sont les trois éléments du projet Amber et qui nous permettent de progresser vers le pattern matching, ce qui est vraiment excellent. Comme vous le savez, la version 16, c'est la dernière version avant la version 17, puisque 16, l'entier qui suit, c'est 17, donc là, j'ai pas dit grand-chose. Et la version 17, c'est la prochaine version LTS du JDK qu'on va voir. Le fait que ces sealed classes soient en seconde preview est probablement un bon signe pour que l'on ait ces sealed classes en version définitive en Java 17, donc pour la version LTS. En dehors de ces deux fonctionnalités et de cette preview, on a deux API qui sont disponibles en version incubator. Alors incubator, ça veut dire que ces API sont encore susceptibles de changer, voire d'être retirées du JDK. Incubator, ça veut dire que pour les utiliser dans nos applications, il va falloir importer ces modules explicitement. Et dans le nom du module, il y a écrit incubator, donc a priori, on sait ce qu'on fait. Cette API dispo en mode incubator, eh ben on sait qu'elle peut être modifiée, voire retirée du JDK. En tout cas, quand elle sera en version définitive, elle sortira de ce module incubator. Le nom du module, lui, changera. La première de ces API disponibles en incubation dont je voudrais parler, c'est la Foreign Memory Access API. C'est une API qui permet d'accéder à la mémoire étendue qui n'est pas gérée par le Garbage Collector dans la JVM. On a déjà moyen d'accéder à cette mémoire-là, et il y a déjà des frameworks qui sont construits sur cet accès. Cet accès, il passe par les Byte Buffer de Java NIO. Mais d'une part, c'est une API qui est assez ancienne et qui n'est pas forcément super sécurisée dans la mesure où le compilateur ne vérifie pas de façon très très fine ce qu'on écrit et ce qu'on relit. Est-ce que ce qu'on relit, c'est bien le bon type que l'on avait écrit avant ? Ça, le compilateur ne vérifie pas trop ces choses-là. Avec cette nouvelle API, on va avoir la possibilité de faire les choses de façon vraiment sécurisée et vérifiée par le compilateur. Cette API, elle est extrêmement riche, elle permet d'écrire et lire des objets directement dans cette mémoire et elle est extrêmement intéressante. Donc troisième version d'incubation pour cette API, ce qui est également une bonne chose. Et puis la dernière API dont je voulais parler, c'est l'API Vector API, également disponible en incubation. Alors cette API Vector API, elle n'a rien à voir avec Java Util Vector. Hein. Ce n'est pas du tout Java Util Vector Reborn ou Java Util Vector Reloaded. C'est absolument pas ça. C'est une nouvelle API qui est présentée par Paul Sandoz et par John Rose et qui vise à exposer au travers d'API dans le JDK, certaines capacités que certains processeurs d'Intel et d'autres fondeurs exposent. En fait, dans ces processeurs, on a parfois ce que l'on appelle des noyaux de calcul SIMD. SIMD, ça veut dire Single Instruction Multiple Data, et ce sont en fait des noyaux de calcul numérique parallèles qui peuvent exécuter une même instruction assembleur de façon exactement synchrone sur plusieurs CPU à la fois, enfin sur plusieurs cœurs de calcul de CPU à la fois, et à chaque fois sur des données qui sont différentes. Donc ça permet de faire du calcul vectoriel essentiellement, directement implanté sur le silicium et extrêmement performant. Ce concept de SIMD, c'est pas un concept nouveau, c'est un concept qui date des années 80-90. Et dans ces années-là, on avait des machines parallèles qui implémentaient ce concept-là. On a eu la MassPar, on a eu les Connection Machines, The Thinking Machine, et puis quelques autres machines, dont certaines étaient françaises d'ailleurs, peut-être un peu plus confidentielles, comme Symfony ou Sympathy, qui étaient développées par le CEA, qui n'ont pas forcément eu énormément de succès, mais dont les concepts ont en fait perduré jusqu'à présent. Donc cette Vector API va nous permettre de faire du calcul parallèle en exploitant ces capacités du silicium des processeurs. C'est vraiment de la programmation parallèle très différente de la programmation parallèle qu'on connaît avec les streams parallèles, par exemple, qui sont dispo depuis Java 8. Les streams parallèles, ça s'appuie sur le framework ForkJoin, qui lui a été ajouté au JDK en Java 7, et cette façon de faire du calcul parallèle s'appuie sur la programmation multithread, avec éventuellement tous les problèmes que cela peut avoir. Là, il s'agit vraiment d'un calcul parallèle très différent, qui dépend étroitement du hardware, qui dépend étroitement du CPU, mais qui permet aussi d'avoir des performances qui sont bien meilleures. Si vous vous intéressez à cette Vector API, je vous invite à écouter une interview extrêmement intéressante de John Rose et de Paul Sandoz, qui a été diffusée sur Inside.java, dans le cadre d'un podcast en anglais qui est publié par ce site. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci à tous et à une prochaine fois.
Cool.
Non, chouette.
Voilà. Chouette, c'est ça. Donc, du coup, merci José pour ce crowdcast. Et puis, pour compléter ça, il y a Loïc qui nous a fait un article justement sur Java 16. Java 16 aussi, et Loïc Mathieu, pour ce que je pense, genre on se connaît tous, machin, mais bon. Voilà, Loïc, qui reprend un peu ce qu'a dit José, mais il rajoute notamment les socket channels qui permettent de faire des connexions de sockets Unix entre process qui court-circuitent la stack TCP, donc qui permet techniquement d'avoir des connexions plus rapides et plus légères. Je crois qu'ils n'ont pas encore implémenté le file descriptor. Voilà. Mais sinon, c'est quelque chose que José n'avait pas mentionné. Un autre truc, le support de Alpine et de Arch 64 pour Windows. Donc Alpine, c'est notamment au lieu d'utiliser libc, c'est d'utiliser Muscle. Voilà, qui n'était pas un truc fondamentalement supporté jusqu'à présent. Ah oui, puis il y a Illegal Access qui passe en deny au lieu de warning par défaut, un truc comme ça. Donc, on va commencer à avoir des librairies qui n'ont pas encore été mises à jour, où ça a commencé à sauter.
Ça va sauter.
Ouais.
Ça va péter.
Voilà, sinon, il y a l'équipe GraalVM qui a fini par implémenter Java sur Truffle. Du coup, c'est Java qui tourne sur Java. Donc, c'est tout. Vous savez bien, les gens qui font des langages, ils aiment bien le côté référentiel. Voilà. Ouais, métacirculaire. Donc, après, c'est pas une JVM anti. Enfin, ça implémente la spec Java. Après, le garbage collector est sur la JVM qui host ça. Donc, si vous faites tourner Truffle sur Hotspot, c'est le garbage collector de Hotspot. Si vous le faites tourner sur Substrate VM, par exemple, du coup, pour avoir la compilation native, ça sera sur le garbage collector de Substrate VM. Voilà, et du coup, je pense que le cas d'utilisation, c'est ça, c'est de pouvoir faire du Java interprété, même en compilation native, donc avec évidemment un coût supplémentaire en mémoire, etc. Mais il y a peut-être des morceaux que vous voulez pouvoir interpréter.
Ah, et puis, vous pouvez en fait essayer de compiler Java, qui compile Java, qui compile Java, qui compile Java, qui tourne sur la JVM, qui tourne elle-même sur la JVM.
Pourquoi pas ?
Bah oui.
Ouais. Tu sais, ton compilateur, il est compilé avec la version d'avant du compilateur. Hein. Donc, ça a toujours existé, ça. D'ailleurs, je ne me rappelle plus qui a inventé ça.
Le bootstrapping ?
Non, mais qu'on peut mettre un malware dans le compilateur et avec un truc qui le supprime à la compilation d'après, enfin, qui supprime les traces, etc. Et après, c'est impossible de savoir s'il y a un malware ou pas. Il y a un truc de. Je ne me rappelle plus.
Oh, punaise. C'est fort.
Bref. Voilà, bon, bref, c'est pas comme ça qu'on va tenir dans l'heure. Encore une fois. Voilà, bon, après, je sais pas si l'usage est si universel que ça par rapport à faire tourner d'autres langages sur GraalVM, mais on va voir un petit peu.
Ouais, pareil, lorsque j'ai lu l'article, j'ai trouvé ça marrant ou intellectuel marrant, mais je vois pas.
Ouais, ce que ça
je vois pas de use case en fait.
Bah pour moi, c'est les usages où dynamiquement faire tourner Java, tu vois, des modules ou des choses comme ça. Voilà. Mais en ayant la compilation native pour le cœur de ton appli, c'est le cas d'usage que je peux voir. Moi.
D'accord.
Sinon, on a un autre Crowdcast, c'est la fête aujourd'hui. Merci, merci à tous les participants. Ouais. Et donc là, c'est Benoît Sautel qui nous a fait un Crowdcast sur GraalVM, mais cette fois qui parle du moteur JavaScript.
Bonjour tout le monde, je suis Benoît Sautel et je vais vous parler d'une alternative au moteur JavaScript NashHorn. Vous en avez parlé récemment dans les news, NashHorn a été déprécié dans Java 11, puis supprimé dans Java 15 et récemment repris par la communauté en tant que projet indépendant. Il existe une autre solution pour exécuter du code JavaScript depuis la JVM. Elle nous est proposée par GraalVM grâce à son mécanisme d'interopérabilité des langages. Il n'est pas nécessaire d'utiliser la compilation native de GraalVM, ça fonctionne aussi dans la JVM, il faut simplement charger quelques dépendances disponibles sur les dépôts Maven. GraalVM est une plateforme polyglotte, elle est capable d'exécuter du code écrit en différents langages. Pour JavaScript, le moteur s'appelle GraalJS. Il implémente ECMAScript 2020, la dernière version de la spécification, là où NashHorn implémente seulement ECMAScript 5.1 qui date de 2011 et est antérieur à ECMAScript 2015 qui a profondément modernisé le langage JavaScript. Il est également compatible avec Node.js, y compris avec les modules JavaScript qui interagissent avec du code natif. Pour simplifier la migration depuis NashHorn ou Rhino, GraalVM permet d'exécuter du code JavaScript via la JSR 223 et l'API ScriptEngine, mais il est recommandé d'utiliser directement l'API polyglotte de GraalVM. Contrairement à NashHorn, GraalJS tourne en mode isolation par défaut pour une meilleure sécurité et on peut activer à la demande certaines fonctionnalités comme l'accès au système de fichiers ou aux classes Java. Côté performance, il semblerait que GraalJS soit moins rapide que NashHorn dans la JVM avec les options par défaut. L'équipe GraalVM a mis sur GitHub un projet de démonstration de GraalJS basé sur Maven qui permet d'exécuter un benchmark de comparaison avec NashHorn sur du code JavaScript qui fait des calculs sur les nombres premiers. Il montre, sur ma machine, que GraalJS est 5 fois plus lent que NashHorn. En revanche, on peut accélérer grandement l'exécution de GraalJS en s'appuyant sur la JEP 243 qui permet de définir des compilateurs dynamiques dans la JVM. C'est une fonctionnalité qui existe depuis Java 9, mais qui est encore expérimentale dans Java 15. Toujours sur le même benchmark, en ajoutant quelques options au démarrage de la JVM pour déclarer le compilateur dynamique de GraalVM, GraalJS s'exécute environ 10 fois plus vite qu'avec les options par défaut, soit 2 fois plus vite que NashHorn. Il est intéressant de noter que l'API polyglotte de GraalVM permet d'appeler n'importe quel langage supporté par GraalVM depuis n'importe quel autre langage supporté par GraalVM, par exemple du Python depuis du Ruby, à condition, bien sûr, d'avoir changé les bons interpréteurs. Bonne journée.
Voilà, merci, puisqu'effectivement, on avait vu que NashHorn est sorti du JDK officiellement, mais qui est supporté par une autre équipe. Du coup, voilà, il est là en module supplémentaire, mais du coup, là, on a aussi une alternative qui est le JavaScript via GraalVM. Et petite autopromotion, on va dire, même si je ne gagne pas d'argent là-dessus. J'ai fait un petit article sur JBang.
Super article.
Voilà, petit mais super.
Tu vois, c'est d'Emmanuel Bernard sur JBang.
Voilà. Et JBang, ça peut faire plein de choses, mais notamment, ça peut simplifier l'écriture de scripts, mais en Java. Et quand on veut écrire un script, on veut un fichier qui s'auto-exécute et pas avoir à s'embêter avec un pom.xml, un src/main/java, src/test, etc., etc. Et puis on veut pas une ligne de commande qui est java-cp, enfin pas -- d'ailleurs parce que c'est pas les conventions de Java. Voilà.
Ça fait longtemps qu'on fait plus de -cp à la main.
Bah ouais, mais quand tu veux faire un script qui dépend pas de tout, tu fais un bash qui pointe ton script, bref.
Sinon on utilise du Groovy tout simplement.
Sinon on utilise du Groovy, voilà. Et donc oui, ça le fait déjà, voilà. C'est en fait JBang, ça reprend les idées notamment qui sont venues de Groovy, mais pour du pur Java. D'ailleurs, un autre truc qu'ils ont repris, c'est cette idée de pouvoir définir les dépendances au début de votre fichier. Alors, je crois qu'en gros, oui, c'est des annotations.
Ouais.
Mais là, c'est des commentaires. Donc, on définit les dépendances, ce qui fait qu'on a, on pointe pas vers le, on n'a pas besoin d'avoir un pom.xml en dehors. Et l'autre point qu'ils ont, c'est que Jbang, il vous permet de générer l'environnement pour que l'IDE, il croit que c'est un programme Java, enfin, plutôt un projet Java normal avec le pom, avec vos répertoires comme il faut. Et donc, vous pouvez éditer votre fichier comme ça et le sauver. Donc, ah oui, assez pratique. Et ça donne envie de décrire des scripts en Java plutôt que d'aller sortir des langages, si c'est pas votre truc, d'aller sortir des langages qui sont un peu moins familiers pour vous. Voilà. Et puis, en parlant de JavaScript,
c'est pareil.
Il y a quelqu'un qui propose un truc qu'il appelle Element Worklet, qui permet de rendre JavaScript préemptif. En fait, JavaScript, notamment dans les, enfin, il y a qu'une seule boucle en fait, il y a qu'un seul process et c'est pas multithreadé. Et la proposition, c'est de créer un concept de code JavaScript qui permet d'exécuter un morceau de code en dehors du thread principal. On peut faire donner la main, mais c'est du non préemptif à l'époque de Windows 3.1, etc. C'est-à-dire que votre code, il peut utiliser des promesses, et donc à chaque frontière de promesse ou à chaque fois que vous faites un yield, par exemple, là, le JavaScript va aller décider qui continue de s'exécuter. Mais c'est un endroit précis du code. Là, avec une approche multithreadée, eh bien, c'est le moteur en fait qui décide de vous arrêter et de vous faire reprendre. Donc voilà, il invente ce concept de Element Worklet qui pour moi me rappelle pas mal le runnable finalement en Java. Hein. Après, sa spec ne décrit pas du tout la notion de thread séparé, etc. Ce qu'il décrit, c'est le format d'interaction entre ce worklet et puis d'autres morceaux de votre programme JavaScript, notamment avec un passage par message, un message channel pour communiquer entre les deux. Et puis des API un peu réduites, mais qui travaillent sur le shadow DOM pour pouvoir justement peut-être l'appliquer à des frontières bien, bien spécifiques. Voilà, alors ça ne reste qu'une proposition, mais bon, pour les gens qui sont un peu à la pointe du JavaScript, c'est peut-être quelque chose à suivre. Sinon, au niveau librairie, on a le driver JDBC d'Oracle qui est sorti, qui supporte les threads virtuels. Donc, si vous voulez tester Loom avec le JDBC d'Oracle, le driver JDBC d'Oracle, allez-y. C'est pas le premier projet Oracle où on voit support Loom. Donc, il y a eu au moins un alignement entre les équipes là pour essayer de faire marcher tout ça. Donc, ça, c'est cool. Il y a des extensions réactives. Donc, c'est pas JDBC, mais des extensions spécifiques à Oracle pour faire des appels non bloquants. Et puis, ils ont mis des métadonnées pour que le driver fonctionne dans GraalVM Native Image. Après, il y a des petits trucs à améliorer. Notamment, ils ont utilisé le Allow Incomplete ClassPass, qui est un peu le genre... c'est le cheat mode, en fait, dans GraalVM Native Image. Mais bon, c'est un progrès. J'espère qu'ils vont continuer à travailler et à améliorer ça. Voilà. Voilà, en parlant de GraalVM, Micronaut 2.3 est sorti. Avec, tu veux peut-être en parler, Guillaume,
ouais, justement. Ouais, le support de JMS, donc avec les annotations, comment ça s'appelle déjà, JMS, c'est quoi déjà, JMS Listener, JMS Producer, et puis après on peut définir la méthode qui reçoit ou envoie, on la note avec le @q pour savoir où est-ce que ça va être envoyé. Qu'est-ce qu'on a? Il y a un truc que j'avais pas bien compris là, c'est la résolution des locales, et dans la doc c'est pas très clair comment on passe l'info de local.
Mais attends, t'es au board de Micronaut?
Ouais.
Comment ça se fait?
Oui, non, mais
comment ça se passe d'ailleurs? T'as le droit, je sais pas si t'as le droit de dire d'ailleurs.
Si, non, on a des réunions de temps en temps là, ça fait un moment qu'on en a pas eu. Donc pour discuter de la roadmap, de ce qu'on, enfin des actions à faire, etc. Enfin c'est assez light hein, comme.
D'accord. Mais en fait je pense qu'il, juste pour revenir à ta question sur local, c'est donc maintenant on peut faire un @inject de local et surtout on peut avoir en gros un local producer qui va produire l'objet local, donc on peut customiser un peu comment cette locale est récupérée.
D'accord.
Par exemple, dans un environnement où on est on répond à du REST, on va aller récupérer le local qui vient du header de la demande, par exemple, de votre navigateur. Après, voilà, il y a d'autres protocoles potentiels en fonction de là où on est. Je pense que c'est ça qu'il voulait dire.
D'accord, ok, je comprends mieux. Parce qu'il ne montrait pas vraiment les exemples de code, etc. Donc, je ne savais pas trop comment ça fonctionnait.
Après, moi, j'avais bossé là-dessus pour BIN Validation.
Donc d'accord.
Ça m'a dit quelque chose.
Ok. Sinon, les améliorations dans tout ce qui est introspection. Et puis, le truc killer feature, là, c'est la customisation de la bannière.
En couleur.
Voilà, donc un truc super vital, mais bon, des fois, il faut bien...
C'est un peu le point Godwin.
Non, mais des fois, c'est vrai qu'il faut bien faire des petits trucs un petit peu fun, quand même.
Ouais.
Tu sais qu'il y avait eu un débat... ça depuis longtemps.
Ouais.
On a vu un débat énorme dessus. Il y a des gens qui étaient contre, des gens qui étaient pour.
Terrible.
Et ça a été un... décision arbitraire des chefs.
D'accord.
Au final.
Donc voilà côté Micronautes. Et ouais. Puis oui, du côté Grails, vu que c'est quand même les mêmes personnes derrière. Donc il y a aussi le lancement de la fondation Grails, donc de la même manière qu'il y a eu la fondation pour Micronautes.
Et tu fais partie du board?
Non, pas pour Grails, non. Non, je suis juste sur Micronautes. Ça fait un moment que j'ai pas utilisé Grails d'ailleurs. Donc du coup, j'ai plutôt tendance à utiliser Micronautes ces jours-ci. Donc qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est calqué quand même sur le modèle de la fondation Micronautes. Qu'est-ce qu'on a? Donc l'utilisation de Semver pour le versionning. Donc le technical committee qui sont sur le board qui vont décider de la roadmap. Dans Grails 4, donc Grails 3 et avant, c'est basé sur Spring Boot. Mais Grails 4, il y aura aussi le choix d'utiliser Micronautes.
Ah,
ouais.
D'accord.
Et bon, je ne sais pas si j'aurai le dire, on s'en fout, de toute façon, ils n'écoutent pas les gens de Spring. Non, c'est vrai, je me souviens d'une discussion il y a des années maintenant, mais que j'avais eu avec Graham Rocher, donc le créateur de Grails et de Micronautes, qui me disait, bon, c'est vrai que si on n'avait pas à l'époque, nous était racheté par Spring Source. Grails n'aurait pas été basé sur Spring et après Spring Boot, quoi. Donc, ça aurait été Micronautes un peu avant l'heure.
Oui, d'accord.
Bon, ce qui est un peu logique, on va dire. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui va arriver? Les transactions Mongo dans Gorm, les Groovy Server Pages qui à l'origine, ça venait quand même de l'espèce de moteur de template de Groovy qui avait été customisé, tout ça dans Grails, qui était du coup adhérent à Grails, mais qui devrait être rendu plus modulaire. Donc, on devrait avoir une sorte de moteur de template GSP plus ou moins indépendant. Ils sont en train de regarder pour le support natif de WebSockets, améliorer l'intégration avec Kafka. Et puis après, plus tard, donc là, Grails 5, donc avec du Groovy 3, Spring Boot qui passera en 2.4, enfin, à moins que ce soit peut-être 2.5 ou je sais pas quoi à ce moment-là, c'est un peu plus loin, Gradle 6 et Java 15 comme base. Voilà.
Bueno. Et puis, c'est un peu toujours le duo, en tout cas, Micronautes, Quarkus. On va parler de Quarkus 1.11.
Il manquait Lidon.
Comment?
Et Lidon.
Non, je dis, il manquait Lidon.
C'est vrai qu'on ne parle pas des Lidons qui ont sorti une version, justement, avec le projet dont je pensais, qui avec le support des Virtual Threads pour Loom. Après, j'ai pas trop vu dans le détail ce qu'ils avaient changé autour, mais en tout cas, ils ont fait les flags qui vont bien pour que ça fonctionne. Voilà. Et Lidon, d'ailleurs, il y a aussi maintenant, on peut utiliser Micronautes comme moteur dans Lidon.
Ah oui, c'est vrai, oui, exact. Ouais. Bah, le fait que Graham travaille chez Oracle, il y a des rapprochements.
Mais c'est là où j'ai pas bien compris, moi, en fait, Graham, qui maintenant est chez Oracle, bosse sur Elidon. Ouais. Et je vois Elidon et Micronautes et j'ai un peu de mal à comprendre, en fait, parce que il y a plein de, ils font pas mal pareil, et puis par moment ça fait pas pareil et tout. Et je me dis, mais en fait, ils bossent pour qui, Graham? Maintenant, ils bossent plus pour Elidon.
Oh non, non.
Ils bossent plus pour Micronautes, sur une intégration de Micronautes par Elidon.
Bah, en tout cas, oui, une intégration de Micronautes par Elidon, oui. Après, ils travaillent pour Micronautes, quoi, quand même. Hein. Donc, plus il y a d'interactions et tout ça, mieux c'est. Mais voilà, lui, ça reste quand même Micronautes priorité, quoi.
D'accord, c'était mon doute, ok.
Ah ouais, non. Pas de doute.
Bon. Mais en tout cas, il ne travaille pas pour Quarkus.
Non.
Il est passé quoique, en 1.11 sans lui.
Quoique, on travaille avec Graham sur une proposition CDI Lite qui est justement fait pour les frameworks qui font la génération d'injection définie au build time. Mm. Voilà. Donc. Quoique, voilà. En tout cas, Quarkus 1.11 est sorti. On est même à la 1.11.3 de mémoire. On est passé par la 1.11.1. et dedans, bon, qu'est-ce qu'il y a? Il y a donc RestEasy Reactive. Je sais plus, on en avait peut-être parlé avant, mais qui fait une implémentation de JAX-RS, mais en version entièrement non bloquante. Et notamment embrasse les approches Quarkus avec le scanning des annotations, la génération du métamodèle, tout ça au moment du build, et qui est basé sur Vertex Route, sauf que ça utilise des approches JAX-RS qui sont un peu plus connues et plus déclaratives.
Et à ce sujet, il y a un super blog de Georgios hier ou avant-hier, ouais. Georgios, qui explique le gain de performance en réactif et en bloquant aussi. L'article est super intéressant.
Oui, parce que ça, vous pouvez quand même utiliser du bloquant, vous faites un ad blocking, mais c'est juste que là, le moteur un peu plus loin est non bloquant. Et après, c'est à vous de choisir si la réponse à cet appel, vous le voulez en bloquant ou pas.
Je le rajouterai dans les show notes parce que l'article était super.
Ça marche. Et puis, un autre truc que les gens de Quarkus ont rajouté, c'est la dev UI. Donc, si vous allez sur votre moteur Quarkus, alors c'est que en dev, mais après, vous faites un /Q/dev, je crois. Et vous avez une UI qui vous permet de faire des tâches de développeur, notamment éditer votre config, et notamment avoir la doc de toutes les configs possibles, mais dans la liste des extensions que vous utilisez, voir la liste des bins et comment ils sont résolus dans CDI avec leur scope. Voilà, c'est des petites choses qui sont intéressantes, qui vous dit, voilà comment le programme a interprété en vrai ce que vous avez déclaré. Pareil, les schémas de migration de base de données, les exécuter, vous pouvez le faire à partir de cette UI. Donc ça, c'est pas là pour remplacer votre IDE, c'est là pour le compléter, en fait.
Voilà. Et quand même, sur le dernier Quarkus Insight, hein, qui est la chaîne YouTube, j'avais posé une question sur Quarkus 2.0 parce que l'année dernière, je discutais avec un dénommé Emmanuel Bernard et je lui disais, mais Emmanuel, tu la vois pour quand, toi, cette roadmap Quarkus 2? Et Emmanuel Bernard m'avait dit, je pense qu'il n'y aura jamais de Quarkus 2 parce qu'on est tellement lié à Kubernetes qu'il faudrait qu'il y ait un paradigme différent de Kubernetes.
Putain, qu'est-ce que je dis comme connerie.
Hein. Pour appeler ça un Quarkus 2. Et donc là, il parlait de Quarkus 2 et en fait, il disait que Quarkus 2, pourquoi 2? Parce que ça serait basé sur Vertex 4 et a priori, Vertex 4 casserait quelques trucs au niveau des extensions. Donc a priori, il y aurait bel et bien un Quarkus 2. Et ça serait pas la faute à Kubernetes, mais la faute à Vertex. Voilà.
Peut-être qu'on devrait faire une interview d'Emmanuel Bernard.
Oui, je pense.
Ce que je voulais dire dans ce passé-là, c'est que moi, je préfère qu'on casse un tout petit peu à chaque fois et que ça soit des évolutions qui soient pas trop compliquées d'une version à l'autre. Et du coup, un 2.0, ça a tendance à être la fête à la maison, où tout le monde décide de péter tout.
Tout le monde casse tout, quoi. Ouais,
Et on a vu certains frameworks, ou langages d'ailleurs, qui sont juste pas été pris. C'était vraiment deux communautés différentes avec une vraie différence.
Par le Python 2 et Python 3?
classique.
Ouais, alors celui-là, c'était classique. Un exemple, mais Play 2, c'était vraiment très différent. Voilà, il y a eu un certain nombre d'exemples comme ça où le 2 a été plutôt une... Enfin, c'était vraiment une approche différente. Et là, je préfère plutôt des petites évolutions qui cassent de temps en temps qu'un gros truc qui casse tout.
Ouais.
Voilà, c'est pour ça. Après, ça reste du marketing aussi, les numéros de version. Voilà, on va passer à l'infrastructure. Alors, vous en aviez, Guillaume, vous en aviez déjà parlé un petit peu de d'Elastic qui partait de ASL2 et qui...
c'est un peu Dallas.
Ah, c'est la SSPL.
Oh, c'est Dallas, cette histoire.
Voilà, donc ils ont fait un article, un blog de clarification sur ce qu'ils disent. Et en gros, c'est si vous vendez Elasticsearch directement en tant que service, vous êtes impacté. Et sinon, non. Après, c'est chiant parce que on connaît des gens de chez Elastic, mais c'est vrai, donc c'est un peu, c'est pas que c'est difficile de donner notre avis quand il est un peu contraire, mais moi, j'avoue que je suis un peu, enfin, je suis déçu. Déjà, il y a ce que la licence dit quand tu la lis et que tu interprètes. Après, les FAQ ou le blog du fondateur, ça a pas non plus, ça a pas de valeur juridique, quoi. Donc après, ça reste du non open source au sens OSI du terme. Et puis ça pose la question sur la suite, quoi. Donc là, c'est Elastic. Est-ce qu'ils vont, pareil, forquer Lucene, un de ces quatre? Voilà, ça crée plein de doutes qui sont décevants. Des gens qui s'étaient appuyés sur cet écosystème-là, qui du coup se disent, waouh, on est plus dans où est-ce qu'on va, à quoi on joue. Bon, en tout cas, pour revenir à Elastic, ils réfléchissent aussi à embrasser une licence qui s'appelle la BSL, la Business Software License, qui est une licence qui est en gros basée sur la MIT, mais qui rajoute des clauses de restriction customisables. Du coup, vous dites, voilà, c'est MIT, sauf si votre nom commence par A et avec un Z dedans et finisse par N, vous n'avez pas le droit de m'utiliser. voilà. Et l'autre point intéressant, c'est que ces clauses-là, elles ont une expiration dans le temps. Donc, une version donnée qui est sortie avec la BSL, à 1.2 qui est sortie avec la BSL, au bout de 3 ans ou 5 ans, elle devient ASL 2 et donc redevient open source au sens officiel du terme. Voilà, donc ils réfléchissent à ça, donc ça leur ferait leur troisième licence. Si je compte bien.
On change tous les mois et comme ça, on verra.
Voilà. Sachant, là, on va en parler, mais AWS a fait a forqué Elasticsearch avec une autre société dont je me rappelle plus le nom, là, qui ont décidé de rejoindre leurs efforts. La distribution Elastic d'Elasticsearch, en fait, elle avait déjà un mix de ASL avec le core d'Elasticsearch plus les extensions qui étaient en Elastic Software License. Du coup, il y avait déjà un petit peu un mélange dans le repo de qui était mélangé, et du coup, voilà, donc là, il y avait déjà AWS qui avait fait leur propre distribution, qui nettoyait ça, et du coup, là, c'est un vrai fork au sens, on va continuer à développer et maintenir, mais à partir de la dernière version qui était ASL2. Voilà. Et on avait eu un échange, non, je ne sais plus qui, Julien Pont, j'avais eu un échange avec Sylvain sur les clients d'Elasticsearch, qui, eux, vont rester ASL2, Il y a un petit caveat sur le client Java, parce que le client Java, de haut niveau, pour ceux qui l'ont utilisé, vous savez qu'il a des dépendances sur le serveur parce qu'il partage certaines classes. Du coup, là, ça pose un petit problème, mais ils avaient déjà commencé un travail sur un nouveau client de haut niveau Java qui justement était séparé du serveur parce que ça posait déjà des problèmes. Je sais qu'on en avait eu des longues discussions avec eux autour de Hibernate Search. Voilà, donc ça va venir et celui-là sera pur ASL. Donc, vos clients seront pur ASL. Voilà. Puis après, je sais pas si vous avez écouté le message à caractère informatique, mais en tout cas, si vous avez écouté ça, vous savez que ces gens-là, ils disent, bon, bah, Elastic, voilà, nous, on est pour le partnership avec des sociétés comme Elastic où on leur paye un peu d'argent pour avoir la version as a service de leur solution sur, dans ce cas-là, c'est Clever Cloud. Et il expliquait qu'AWS, en gros, les pillait. Donc, ça, c'est je super simplifie cette version-là. Et donc, Quentin expliquait que voilà, ces boîtes, elles essaient de trouver une approche open source-ish pour trouver un équilibre financier et pas se faire pas d'avoir d'attaque prédatoriale, on va dire, dont de gens comme AWS. Mm-hmm. Et il y a un bon contre-article qui est plus proche de ma position de l'ex-CTO de la société qui travaillait sur Chef. Alors c'est la société doit toujours travailler sur Chef, mais en tout cas le CEO il est ex-CTO, il est parti faire d'autres choses. Et lui il dit voilà, faut bien se rappeler l'open source, il y a quatre valeurs. La liberté de faire tourner le programme comme on veut pour n'importe quel objectif. La liberté de pouvoir étudier le programme et de le changer pour qu'il fasse exactement ce qu'on a envie. La liberté de redistribuer les copies pour pouvoir aider les autres. Et la liberté de distribuer des copies de votre version modifiée pour les autres. Et ces quatre valeurs qui sont numérotées de 0 à 3, évidemment, parce que c'est des ingénieurs qui ont développé ça. Ça, c'est le cœur de ce que ça veut dire open source. Donc, c'est le droit, la liberté à l'utilisateur, en fait, c'est pas un client, mais à l'utilisateur de faire du système ce qu'il a envie. Et du coup, quand on regarde Amazon, on peut avoir tous les débats autour de la moralité de ce qu'ils ont fait, mais en tout cas, ils sont dans le respect de cette liberté. En tout cas, ils utilisent pleinement cette liberté de l'open source. Voilà.
Et ça donc, fait un peu chanson y a... de Florent Pagny, tout ça, la liberté de... Tu devrais le faire toujours un peu en chantonnant, je trouve que ce serait pas mal.
Ouais. Ouais, j'ai pas le coffre de Florent Pagny.
Le coffre, lequel?
Ouais, oh. Les deux. Non, je ne sais pas en fait. Ça se trouve, il est ruiné, moi j'en sais rien, moi, ce pauvre monsieur. C'est pour ça qu'il fait The Voice, tu vois. Et donc, au-dessus, il y a la notion de communauté, mais en fait, au cœur, c'est la liberté pour l'utilisateur qui fait l'open source. D'accord. Et donc ce monsieur-là, donc qui est pour le coup assez énervé contre ce que fait Elastic, la société, dit voilà, en gros, quand ils ont mis le corps d'Elasticsearch en open source, l'idée c'était de pouvoir avoir les bénéfices de l'open source, c'est-à-dire collaboration sur quelque chose de commun entre eux et d'autres, une acquisition à très faible coût pour les utilisateurs et du coup faire grossir l'écosystème et en prendre un morceau du qu'on appelle ça un morceau du gâteau. Après il dit voilà, ils utilisent ce que moi j'appelle l'open source, le open core serré, le tight open core, qui permet qui en général offre donc le cœur en open source et après des fonctionnalités supplémentaires souvent critiques ne sont disponibles que sous une licence propriétaire par-dessus, et donc les entreprises achètent la licence, la version propriétaire, mais il y a un cœur partagé. Après ils sont passés sur ce qu'on parlait, c'est-à-dire un peu le mélange dans le source code de choses qui étaient open source, de choses qui n'étaient pas open source. Et il dit du coup Elastic NV, qui est donc la boîte Elastic, a créé du coup un monde où c'est assez compliqué de dire je vais collaborer uniquement sur les parties open source du système. Et du coup il dit voilà, posez-vous la question, à qui appartient Elasticsearch? Est-ce qu'il appartient à la communauté, en gros des gens qui utilisent Elasticsearch, ou est-ce qu'il appartient à Elastic NV? Et pour lui, Elasticsearch du coup existe pour les ambitions commerciales de Elastic NV et pas nécessairement pour sa communauté. Et c'est là où lui il trouve que c'est souvent le ver dans la pomme quand on a ces approches là. Il dit si moi en tant que contributeur je voulais changer des approches dans Elasticsearch qui pourraient me bénéficier et qui le feraient à l'encontre de Elastic NV, est-ce que je vais pouvoir le refaire? Est-ce que je pourrais le faire? La probabilité, c'est que non. Et l'exemple, du coup, qui est utilisé, évidemment, c'est AWS. Et du coup, lui, il trouve que ces positions fondamentales de communauté, mais très biaisées, sont corrosives pour la soutenabilité de la communauté. Voilà. Et lui, il dit, voilà, la vérité fondamentale de l'open source, c'est que en tant qu'utilisateur, vous avez des droits et que ces droits ne sont pas dépendants de la capacité de quelqu'un à faire de l'argent ou à récupérer de la valeur sur l'outil. Donc après, il faut trouver d'autres approches pour faire ça. Et donc après, il finit par une conclusion qui dit les sociétés qui veulent construire un business model autour de l'open source, ils doivent ce qu'il leur conseille, c'est d'être extrêmement agressif sur leur trademark, leur nom de propriété. Ça doit être clair et très non ambigu que pour utiliser la trademark, vous n'avez pas le droit de l'utiliser pour un autre produit qui est ceux de la société, voire même vous n'avez pas le droit de faire de distribution qui réutilise le même nom. Donc par exemple, Elasticsearch aurait dû être une propriété, enfin d'ailleurs est une propriété de Elastic, et ils auraient dû envoyer des guerriers d'avocats à chaque fois que quelqu'un essayait d'utiliser Elasticsearch dans un environnement qui n'est pas du coup la société. Pour lui, c'est la façon de protéger les intérêts business d'une société tout en ne rendant pas corrosif la communauté. Ce qu'on a vu par exemple avec Hudson et Jenkins, voilà, Hudson était protégé par Oracle. Après, il y a eu un moment un désaccord. Jenkins est devenu Jenkins, qui est devenu plus populaire. C'est assez l'exception qui confirme la règle en pratique. Voilà, donc ça, c'est
MariaDB
un résumé.
MariaDB et MySQL, peut-être aussi, je sais pas trop.
Alors, MariaDB, je crois qu'ils utilisent la BSL, justement, de ce que j'ai lu.
Ah, d'accord. Cette fameuse licence business.
Voilà, cette licence. D'ailleurs, CockroachDB, c'est pareil. Moi, je suis un peu tombé des nues parce que j'avais pas vraiment suivi ce truc-là. Donc, ils ont fait ça en novembre l'année dernière, je crois, ou octobre l'année dernière. Donc, ils ont un truc qui dit, ben, la version, la 1.19, elle est en BSL et elle devient ASL donc c'était en 2020, donc en 2023. Voilà, 3 ans après. Mais c'est un peu, en fait, moi, ce que je trouve compliqué, moi, à vie personnelle, Emmanuel, c'est comment est-ce qu'on construit un écosystème de briques qui s'appuient les unes sur les autres si on a ces licences restrictives qui sont, non, mais on n'a rien contre toi, c'est juste contre ce gars-là spécifiquement, c'est pour ça qu'on se défend. Ouais, mais tu te défends aujourd'hui là-dessus, quand ça change comment, ça s'interprète comment. On avait déjà eu beaucoup de complexité avec la GPL ou la LGPL dans le milieu de l'entreprise. Là, ça va être... on est reparti pour une fragmentation, en fait. Donc, c'est ça où je trouve un peu inquiétant, en fait, toutes ces évolutions. Voilà. J'ai arrêté mon monologue.
T'es pas content?
Non, mais on voit bien qu'il y a du propriétaire, puis basta, et puis voilà. Fini l'open source. Ouais, on arrête les conneries.
En fait, c'est ce que dit un peu je crois qu'il s'appelle Andy, ce monsieur, le CTO de Chef. C'est ça, quoi. C'est de dire, sois clair, en fait. Change pas la donne ou fais pas semblant. Voilà, fais pas semblant. Sois clair. Si tu veux construire une communauté, ça peut être à un risque business pour ta société qui essaie de faire l'argent. Et il faut peut-être trouver d'autres approches. Mais si tu te mets à corrompre ou à contrôler la communauté, c'est là où il y a des complexités. Mm-hmm. Voilà. Sinon, Docker, vous avez vu ?
J'ai rien compris, moi.
Il donne Docker distribution à la CNCF. Alors, c'est quoi, ouais, Docker distribution ?
Alors, la CNCF, c'est donc... Cloud Native Computing Foundation. Donc, c'est tous les gens qui font Kubernetes et le myriade d'écosystèmes autour. Et Docker distribution, en fait, c'est ce qui est au cœur de Docker Hub. C'est donc une container registry, enfin le moteur de la container registry. Et en fait, c'était déjà open parce qu'en fait, il y a des gens qui l'avaient pris et forqué et modifié ce qu'utilisait Docker. Mais en fait, il y avait eu du coup un peu une fragmentation. Donc là, ils se sont dit, bon, on va donner ça à la CNCF pour avoir une zone un peu neutre. Et puis tout le monde, on va mettre des points d'extension pour que tout le monde puisse l'utiliser comme ils veulent. Par exemple, le système de stockage est peut-être différent en fonction des sociétés pour que tout le monde puisse faire des registries à leur sauce. Après, c'est pas tout Docker Hub, c'est vraiment la partie container registry de Docker Hub. Voilà. Bon, après, c'est plutôt une bonne nouvelle. J'ai l'impression.
Mais la licence, c'est quoi?
C'est une bonne question, si la CNCF, elle impose des licences ou pas. Ouais. Super question. On va passer au web.
Yes.
Angular CLI, elle est... Alors, c'est quasi comme Quarkus. Elle est, c'est la 11.1, sauf. donc, Angular CLI, c'est donc la ligne de commande, l'outil de ligne de commande pour interagir avec Angular, notamment créer les projets. Et donc, ça supporte maintenant TypeScript 4.1, que je crois Angular avait supporté depuis une version récente. Il y a une amélioration du plugin, enfin un nouveau plugin Webpack en fait, qui est le truc qui, enfin plutôt l'intégration avec le compilateur Ivy. Mais a priori c'est transparent pour l'utilisateur, mais sachez que le plugin qui pointe vers le compilateur Ivy a changé. Ils ont rajouté un truc qui permet de mouliner les CSS dits critiques. Les CSS critiques, c'est quand on charge une page et qu'ensuite le navigateur va aller charger la CSS pour pouvoir rendre la page. Des fois, il faut aller charger la CSS pour effectivement afficher les choses, et puis ça reste blanc et non affiché en attendant d'avoir chargé les CSS. Et on a l'impression que le chargement est lent, mais c'est juste que le CSS il doit être chargé et interprété. Donc pour résoudre ce problème-là ou éliminer et limiter ce problème-là, on peut inliner des morceaux des CSS qui sont critiques pour afficher le corps de la page avant de charger le reste. Et donc en fait ils ont un outil qui fait ça un petit peu automatiquement, qui est désactivé par défaut, mais vous pouvez l'activer. Donc pour l'instant c'est désactivé par défaut. Voilà, et puis le ECMAScript polyfill a été enrichi. Le polyfill, c'est finalement le support de plein de fonctionnalités supplémentaires sur les anciennes versions de JavaScript. Voilà, ça c'était Angular CLI. Alors, on va passer à outillage. Et là, c'est même
pareil,
pire que Dallas, si tu veux.
Ça, pareil, on a des potes et on peut pas balancer.
Voilà, c'est chaud hein, quand même ce qui se passe. Hein.
Chaud patate.
Ouais, quelqu'un veut se lancer ?
Alors,
Guillaume, à toi.
Ah, pourquoi moi ? Moi aussi, j'ai des potes.
Casse tes amitiés, il faut y aller. Hein. Bah, ouais, mais...
Alors, donc, ouais. Il y avait...
J'avais des potes.
Non.
Moi, par exemple, j'ai plus de potes chez Elasticsearch. Là, ça y est. T'auras plus de
potes chez JFrog. C'est pour ça, moi, je dis rien. Comme ça, je suis pote avec tout le monde.
Donc, JFrog, qui avait son... Comment on appelle ça ? Un repository. Donc, comme Maven Central.
Le JAR Registry.
JAR Registry, donc, qui s'appelle Bintray, ou qui s'appelait bientôt Bintray. Et ils ont annoncé qu'ils allaient le fermer, l'arrêter. Donc, il y avait le repository JCenter pour les JAR. Mais il y avait aussi GoCenter pour Go, ChartCenter pour les Helm Charts. Et donc.
Et plein d'autres, hein. Moi, je parlais avec des gens je crois que c'est du Python, justement. Ils sont là. On est un peu dans le caca. Ouais, je sais plus si c'est Python ou ouais, je crois que c'est Python.
Ouais. Bref. Et qu'est-ce qui va se passer ? Alors, on va plus pouvoir pusher des jars à partir du 31 mars. Ce sera fermé le 1er mai. Par contre,
on ne pourra plus les récupérer.
Enfin, on pourra plus les récupérer. Disons qu'il y aura quand même l'URL de JCenter qui continuera encore à fonctionner pendant un an. Donc, ça laisse quand même un petit peu de marge pour les outils qui dépendent, enfin, ou qui récupèrent en tout cas les jars de ces endroits-là, donc par exemple enfin, des trucs de plugins et autres qui utilisaient Bintray justement pour ça.
Ça a pointé vers Maven Central, non, du coup ?
Non, tu veux dire ça a pointé ou ça va pointer à la place ?
L'URL JCenter, c'est juste que ça va rediriger vers Maven Central ou...
Je ne sais pas comment ils vont le faire, je ne pense pas, je ne sais pas, c'est une bonne question.
En fait, ce qui leur coûte de l'argent, c'est effectivement le gros hosting des terabits de données, en fait.
Ouais, je ne sais pas si c'est... D'ailleurs, pourquoi ils font ça, en fait ?
Parce qu'on... ils ne l'ont pas dit,
on ne sait pas, non.
Non.
Donc, est-ce que c'est effectivement une question de coût ?
On avait parlé avec Docker, hein, qui disait qu'eux l'avaient dit, pour le coup, on avait eu l'échange avec Jean-Laurent, qui disait, ça nous coûte un bras, quand même. Du coup, eux, ils avaient réduit, ils avaient limité le nombre de pools par... ou des choses comme ça. Vas-y, donc du coup je te...
Et du coup, je sais pas exactement, donc c'est peut-être complexité, la maintenance, du support, effectivement le coût de stockage, parce qu'il y a quand même un aspect aussi support qui... Enfin, moi je sais que pour Groovy, on avait quand même pas mal bossé avec eux et ils avaient pas mal passé de temps avec nous pour mettre tout ça en place.
C'est ta faute, ça que t'es en train de dire.
Non, mais je veux dire, je sais que ça leur a pris beaucoup de temps, et peut-être que bah, globalement, sur tous les projets qui sont sur G-Center, ça leur prend globalement beaucoup de temps et de manière continue, et ils ont peut-être autre chose à faire que ça.
Et ce qui est intéressant là pour les chiffres, ouais, c'est que le blog de Sonatype, donc Sonatype répond en disant ouais, pas de souci, venez chez nous. Eux, ils donnent des chiffres et ils disaient que Maven Central l'année dernière, c'était 345 milliards de downloads. Donc c'est juste pour vous imaginer que effectivement, je pense qu'en termes de stockage de download,
c'est le download de surtout parce que quelque chose, hein. Ouais, c'est surtout le download, hein, je pense, qui est le egress qui coûte cher, parce que après le stockage en soi, je sais plus, j'avais vu un chiffre, mais c'est pas si gigantesque que ça. Enfin, c'est des
juste pour,
vas-y, des gigas ou des terras, mais c'est pas par rapport au enfin pas au débit, au mais download, à la quantité de download, de téléchargement, c'est rien en fait. Enfin, nous par exemple chez Google, on a un miroir de Maven Central, et c'est pas tant de place que ça, quoi. C'est plus le download, quoi. Oui, vas-y, tu voulais dire.
Ouais, juste pour clarifier, du coup, donc le 31 mars, vous ne pourrez plus rajouter des nouveaux packages, c'est-à-dire que si vous faisiez la distribution de vos jars, vous ne pourrez pas faire la nouvelle version, la pousser là-dessus. Le 1er mai, c'est la API REST et la UI de Bintray qui disparaît, qui n'est plus disponible. Et effectivement, G-Center continuera à servir les packages pendant 12 mois, c'est-à-dire voilà, jusqu'au 1er février 2022, mais du coup, que les anciennes versions.
Mmh. Voilà. Donc après, donc il y avait, alors aussi pour faire écho à ce que disait Brian Fox de Sonatype, donc pour ceux qui utilisent Bintray aussi, enfin pas forcément tout le monde, mais en tout cas avaient activé un système de synchronisation avec Maven Central, de sorte à ce que si tu pousses sur Bintray, automatiquement, c'est fait aussi sur Maven Central. Et Brian Fox expliquait que si les gens utilisaient ce système de synchronisation avec Maven Central, que ce serait pas compliqué en fait de repasser à Maven Central pour pousser. Par contre, si les gens ne poussaient pas déjà sur Maven Central, que ça allait être bon, un peu plus compliqué, des étapes manuelles, etc.
Recopier les anciennes versions, quoi. C'est ça qui est.
Et recopier les anciennes versions. Donc évidemment, bah ça veut dire que pour beaucoup beaucoup de projets open source en particulier, évidemment, ça veut dire que les process de release, il va falloir les remettre à jour, faire évoluer les scripts et tout ça.
Exactement. À court terme, c'est les gens qui poussaient, hein, qui sont affectés. Ouais. Après, c'est ceux qui dépendaient de G-Center, voilà, l'URL. Mais je sais que nous, enfin, il y avait quand même quelques projets qui étaient passés sur Bintray parce que, on va dire que OSSRH, donc l'outil pour pousser sur Maven Central, c'était quand même pas hyper stable. Il y avait quand même des moments où c'était pas disponible et c'était assez rageant d'avoir sa release qui est un peu bloquée parce que le système derrière, voilà. Ouais. Et donc Bintray offrait pour le coup un bon support. Et justement, comme tu dis, ce que disait Brian, c'est qu'ils ont beaucoup travaillé en sous-marin justement sur l'amélioration de ça et qu'ils ont leur nouvelle génération qui est en bêta en gros.
Ouais. En fait, là, on va se retrouver avec un seul repo géré par une boîte, quoi.
Oui.
C'est ce qu'on avait avant.
Oui. Ouais, mais c'est vrai qu'on se dit flûte, punaise. Tu vois. Bah si Sonatype demain change de licence, si Sonatype demain. Bref.
C'est les mêmes trucs. Exactement. Ouais. C'est les mêmes méta-problèmes. Tu as raison.
Ouais. Donc, bref, voilà. Sonatype qui explique aussi donc, sur son blog, mais ça reprend un peu ce qu'avait dit Brian Fox sur Twitter. Ce qui va se passer, etc. Donc voilà. Alors, si vous poussiez sur Bintray, va falloir retrousser un peu les manches.
Ouais, c'est ça. Sinon, en parlant de téléchargement de dépendance, il y a quelqu'un qui, bon, c'est pas nouveau, mais quelqu'un qui explique une attaque de supply chain, comme on dit, donc qui est redevenu populaire avec SolarWinds là, mais c'est une attaque de supply chain par squattage de noms privés. Donc en fait, l'idée c'est tu regardes sur GitHub, tu fais un méga scan et tu regardes si des gens par accident ont pas mis des dépendances qui pointent vers des dépendances privées à eux. Et du coup, il en a trouvé chez, je dis peut-être des bêtises, mais des gros noms de Lyft, Apple, etc., etc. Et donc, il voit que le gars, il appelle, alors, Java, on a le nom de domaine, en fait, et après, un nom de package. Donc, vous avez, par exemple, IO, Quarkus, Core. Voilà. Et, mais il y a beaucoup de langages où c'est qu'un seul nom, plat, en fait. Go, par exemple, il y a qu'un seul namespace, en fait. Et du coup, si vous voyez que, par exemple, Apple fait Apple underscore, ma librairie privée, eh ben, vous dites, bah, c'est super, je vais aller publier dans mon dans le repository NPM ou l'équivalent Python, etc. Un truc qui s'appelle Apple underscore machin. Eux, ils sont en version 1.12. Moi, je vais mettre la version 2.3 ou 1.14. Et j'attends. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le système de téléchargement, il va d'abord regarder sur le truc public. Il dit, ah bah, tiens, il y a une version plus récente. Il va la choper, mais c'est pas celle d'Apple, c'est la vôtre. Et du coup, bah là, vous avez un code qui est exécuté dans les serveurs Apple. Je prends Apple en exemple, hein, mais en l'occurrence, ils étaient cités. Mais ça exécute sur les serveurs Apple et surtout, ça exécute bah, le code qui n'est pas attendu par l'équipe. Donc, ça pue un peu. En Java, en l'occurrence, avec Maven Central, on est un petit peu protégé parce qu'ils font une vérification que vous êtes effectivement propriétaire du package, du nom de package, donc en utilisant la notion de top level domain inversé là. Bon après ça résout pas tous les problèmes mais ça en résout un petit peu, mais en tout cas c'est un petit peu un réveil un peu brutal pour tous les gens qui avaient des dépendances et pas justement de système de filtrage un peu des dépendances ou de savoir d'où vient la dépendance, de pouvoir dire cette dépendance elle ne peut être téléchargée que de mon repo privé, cette autre elle peut être téléchargée de ce repo public. D'avoir des règles en fait d'audit autour de ça. Alors du coup, vous êtes mis à réfléchir à votre supply chain.
Pas vraiment.
Je pense que ça va être un truc de 2021, ça.
Ah, c'est possible.
Pour pas mal de projets, bah, pour pas mal de boîtes et pour pas mal de projets. Bon après Google, j'imagine, vous avez déjà.
T'es en train de dire que pour 2021, ça a propagé des virus, c'est ça?
Non, mais il va y avoir pas mal d'efforts. On voit la sécurité qui monte de plus en plus, mais je pense qu'il va y avoir des efforts où genre on va pas faire de nouvelles features, on va vérifier que ce qu'on pousse à nos clients, c'est effectivement ce qu'on avait envie, quoi. Et puis où ce que je pousse en prod, c'est effectivement ce que j'avais envie. Voilà. Autre truc plus positif, si vous voulez déployer sur Maven Central justement avec une action GitHub, eh ben il y a quelqu'un qui a décrit tout ça parce que l'action GitHub Java, non seulement elle vous permet d'installer une version du JDK pour pouvoir tourner vos GitHub actions, mais elle vous permet aussi de pousser sur Maven Central. Et donc vous avez fait un article tout bien décrit avec y compris jusqu'à la clé GPG et tout le bazar. Donc ça c'est plutôt bien si vous êtes si vous devez migrer de Bintray, ben c'est peut-être le moment du coup de dire bah tiens je vais faire l'effort d'aller regarder si je suis sur GitHub peut-être utiliser GitHub Action. Mm-hmm. Et Jipster, je crois que vous aviez parlé de Jipster, c'est quelle version là, la 7 ou Jipster 7, c'est ça. Il y a la Jipster 7 bêta qui est sortie, mais donc ça vous en avez parlé l'épisode d'avant. Mais il y a effectivement Jipster pour Quarkus 1.0.0 qui est sorti avec le travail de Daniel Petisme et Anthony Villard. Et du coup, c'est un blueprint dans la terminologie Jipster qui vous permet de surcharger la mécanique de génération pour obtenir un backend qui s'appuie pas pour le coup sur Spring ou Spring Boot, mais sur Quarkus. Voilà, et ça permet de générer une application full stack puisque tout le support Angular ou Vue en fonction de ce que vous voulez côté front-end, il a pas bougé. Donc, si vous voulez finalement générer des applications rapidement avec Jipster, mais avec un backend Quarkus, maintenant, c'est possible. Et je vous encourage à aller sur la mailing list, enfin le groupe des cascodeurs où Daniel a expliqué en fait ce qui est supporté aujourd'hui par le blueprint Quarkus. Et puis Anthony Viard a un Twitch dont on a mis le lien qui a en gros Bah moi je suis trop vieux pour ça, mais sinon des vidéos du coup qui expliquent un peu comment, enfin des choses autour de JHipster Quarkus.
C'est marrant de voir de plus en plus de
Twitch.
Sur Twitch.
Mmh. Ouais.
Faut être ouais, orienté vidéo.
Mmh. Nous on a fait l'essai sur effectivement tu parlais de Quarkus Insight là, qui est une chaîne YouTube, et à un moment on l'a mis avec un truc qui permet de le déployer sur tout, Periscope, Twitch, etc. Mmh. Et en fait au final on a quand même vu que les gens, au lieu d'aller sur YouTube, ils allaient tant sur un autre, je me rappelle plus le nom, je crois pas que c'était Twitch d'ailleurs, peut-être c'était Twitch, qui allait sur Twitch, mais après ça c'était pas nécessairement un gros net new en termes d'utilisateurs. D'accord. C'est juste un peu plus facile pour certains parce qu'ils ont peut-être leur plateforme préférée d'écoute, quoi. Mais c'est un peu comme les messageries instantanées, si tu veux, où il vous faut un méta messagerie instantanée pour tout contrôler et changer les trucs. Il me reste un peu pénible. Voilà. Sinon, vous utilisez des Mac, vous utilisez Homebrew.
Ouais.
Oui.
Mais je suis pas passé au M1. J'aimerais bien. Mais...
Ouais.
T'aimerais bien. Il est limité à 16 gigas encore.
Ouais, mais alors, enfin, dans certains articles qui parlaient justement du nouveau processeur, ils disaient que on a besoin de moins de mémoire avec les M1 qu'avec les Intel. Et je sais plus trop comment c'était, mais enfin, c'est vu que la mémoire est plus facilement disponible pour tous les cores, la vidéo, etc., que en fait, on en a moins besoin, paradoxalement. Donc,
ouais, en fait, alors je me rappelle plus le nom, mais en fait, donc dans l'architecture Intel, ouais, on a le CPU, on a un bus qui amène à la mémoire. Et en fait, dans l'architecture M1, en fait, la mémoire et le CPU, tout ça, sont sur le même bus. Donc, les temps d'accès sont beaucoup plus rapides. Et, ouais, et ça, c'est peut-être même plus que le CPU en tant que tel, le fait qu'il soit passé sur ARM, c'est ça qui fait une grosse différence, en fait, parce que si le temps d'accès mémoire est beaucoup plus court, y a plein de choses qui s'exécutent beaucoup plus rapidement. Il y a un autre truc, un autre tweak que moi je trouvais qu'ils ont fait sur le M1, c'est qu'ils ont mis un disque dur SSD qui envoie du bois, en tout cas par rapport au Apple d'avant. Et du coup, ça aide aussi parce que les gens disaient « Regarde, je zip et je dézip, c'est super rapide. » Bon, en gros, tu viens juste de tester ton I.O. là, mais dur. OK. Voilà. Bon, bref, en tout cas, ça a l'air cool. Et Homebrew 3.0 est sorti avec justement le support pour Homebrew lui-même de le support natif du processeur M1 et donc pas avec l'interpréteur Rosetta 2. Et justement avec du coup ce qu'ils appellent des bouteilles, c'est-à-dire des pré-compilations natives pour M1 qui sont disponibles, donc un nouveau format de bouteille, sachant que tous les binaires qu'on peut installer avec Homebrew ne sont pas forcément ne supportent pas forcément M1 de manière native, et donc dans ces cas-là ils utilisent l'interpréteur Rosetta 2. Voilà.
Et la sécurité aussi.
Ouais.
Oh, je déteste la sécurité.
On a parlé. Je sais pas si je vais le laisser celui-là.
Oh, tu peux le laisser parce que chaque fois je le dis de toute façon.
Alors, la sécurité du front.
C'est de la merde.
Et donc, ça calme, mais il y a un dépassement de pile dans la commande sudo. Depuis 2011 quand même.
Mettre des piles rechargeables. Voilà. Ouais.
Et du coup, on pouvait, je sais plus le détail d'ailleurs, mais en gros, on peut du coup faire un dépassement de piles et gagner
un dépassement de face.
De gagner les privilèges, du coup. Donc ça, c'est pas cool. Donc mettez à jour votre Linux, Unix, macOS. Bref, tout sauf Windows, en gros, pour éviter cette vulnérabilité. Voilà, parce qu'imaginons que quelqu'un accède à votre compte non privilégié, là, il se peut qu'il fasse un dépassement de pile avec sudo et du coup, accéder à plus de choses. Voilà, au niveau changement dans les sociétés de la tech, Jeff Bezos ne sera plus le président directeur général d'Amazon. Il reste le président du directoire, mais il laisse la place à l'ancien CEO d'AWS, qui devient de tout Amazon.
Ouais, et je lisais un article là-dessus et l'analyse était pertinente parce qu'elle disait que c'est un message fort. C'est vrai que le commun des mortels connaît Amazon, Amazon qui vend des livres, qui vend des chaises. Mais en fait, il disait que le chiffre d'affaires d'AWS commence à être plus important qu'Amazon.
Enfin, c'était quoi? C'était un tiers, je crois.
Ouais, il n'est pas plus important. Plus important. La marche est d'un côté et 40 de l'autre. Quoi.
Donc, voilà, et donc il disait que mettre ce mec à la tête d'Amazon, c'était justement pour pousser d'autant plus AWS. Donc à suivre, mais apparemment ce serait pas si anodin que ça que ça soit.
C'est marrant, que ce soit ce gars-là. Parce qu'en fait, ce mec-là, il est chez Amazon depuis hyper longtemps.
Presque le début. Ouais.
Je pense que c'est plus ça, c'est que le mec il est là depuis qu'il a la confiance de Bezos et d'ailleurs c'est pour ça qu'il a été l'idée AWS. Tu vois, c'était quand même un nouveau business. Il l'a monté. Il l'a monté de zéro. Je sais pas quand est-ce que ça a démarré AWS.
Mais... On te fait un bail.
Donc voilà, du coup, c'est Andy Jassy pour info. Et du coup, Jeff Bezos, il a plein d'autres trucs. Hein. Il a un truc pour aller dans les étoiles. Il a le Washington Post. Il veut faire une planète verte. Voilà. Enfin, il a plein d'autres choses à faire. Mais il restera sur les projets stratégiques Amazon. Juste, il a pas envie de se faire chier au quotidien. Quoi. Il a autre chose à foutre. C'est ça, en gros. Hein.
Oui, oui.
On peut être d'accord ou pas, je pense qu'Audrey ne serait pas d'accord, mais les gens disaient l'impact de Bezos sur le monde a été hyper important et positif, d'après les lectures de ces gens-là, notamment le minimum wage à $15, c'est un des plus gros employeurs des États-Unis. Ils ont construit pas mal d'innovations, que ce soit le Kindle, que ce soit AWS, etc. Donc voilà, ils expliquaient pas mal de choses en hommage au travail de Bezos. Ça me rappelle un peu quand Gates était parti et avait dit « Bon, moi, maintenant, je vais m'occuper d'une fondation. »
Philanthropie. Voilà.
Ouais. Et donc, au même niveau, Sacha Labouret.
Ah, il va dans l'espace aussi.
Pour aller dans l'espace. Non, Sacha, il dit un peu plus humblement, il dit voilà, on en est à 100 millions de revenus, la prochaine étape c'est 250 millions et l'offre publique, le IPO comme on dit, et que c'est un truc qui m'intéressait un peu moins, et par contre moi ce que j'aime bien c'est le produit et la stratégie. Du coup, je vais il devient Chief Strategy Officer de CloudBees, et puis c'est un monsieur qui s'appelle Steph DeWitt, qui devient le CEO de CloudBees. Voilà, il dit c'est depuis cet été que j'essaie de trouver quelqu'un pour passer à l'étape d'après pour CloudBees. Voilà.
Est-ce qu'on va le revoir habillé en abeille? À voir.
Attends, il était déjà en abeille alors qu'il était CEO. Alors maintenant, il est CSO, si tu veux. Est-ce qu'on va le revoir habillé? Tu vois, c'est la question. On va le revoir habillé.
Bon, guêpe. Taille de guêpe.
C'est bon. Il y a peut-être du taf là, tu vois, je sais pas.
Peut-être plus.
Ok, bon, merci à tous. Cet épisode est du coup, un peu plus. On voulait faire une heure de podcast, là, du coup, c'est un peu mort. Mais voilà, l'idée, c'est d'essayer d'un petit peu de les réduire, les épisodes. On va voir travailler à ça dans les prochains enregistrements. Voilà, bisous à tous. Il y a quelqu'un qui va mourir dans le.
Pardon.
Qui a le Covid? C'est qui a le Covid?
Pas encore.
Bref. C'était le dernier enregistrement de Guillaume.
J'espère que non.
Ah ouais, moi aussi. Allez, à tous.
Ciao.
Et à la prochaine.
Ciao.
Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcastthème.com, podcastthemes.com. Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express, www.touilleur-express.fr.